Saviez-vous que l'autre histoire de Genève, une chronique insolite présentée par Carlo Ruexeger.
Saviez-vous que c'est en sachant ce que mangent les gens que nous avons une illustration peu commune de l'opulence ou la pauvreté en matière de choix disponibles et variés? Au XVIe siècle, en plus des produits locaux, arrivent par bateau, par route, les premières épices et autres légumineuses. Les voyageurs apportent avec eux leur savoir-faire culinaire et la diversification alimentaire. Les transports de l'époque, lents et soumis aux avatars du trajet, ne pouvaient amener que rarement des produits périssables, comme le poisson de mer ou des fruits exotiques, fort chers car rares. Les stocks souvent gâtés étaient détruits, il ne restait que très peu de victuailles consommables. Nous reviendrons ultérieurement sur les épices et autres produits exotiques. Mais restons aux biens de base, tels la viande par exemple. Comment elle était apprêtée, avec quoi, à quelles occasions? Plusieurs catégories de morceaux sont disponibles. D'abord ce que l'on nommait la grosse viande, principalement le bœuf, peut apprécier des gens délicats. Ces bestiaux étaient utilisés par les paysans pour le travail des champs, et tant que les vaches donnaient du lait, on les conservait. Ces bêtes arrivaient donc à l'abattoir vieilles et fatiguées. Il n'y avait que deux solutions pour pouvoir les manger, les bouillir ou les braiser. Le bouillon récupéré était bu, bien sûr, et le surplus offert à l'hôpital. Mais la préférence générale pour rôtir et cuire en sauce sont le mouton et le veau. Le mouton figure au menu quotidien ou presque des classes aisées. Elle est servie en ragoût avec des navets et les gigots sont en bonne place sur les tables bourgeoises. On trouve encore la chèvre, le chevreau et aussi les volailles dont nous reparlerons. Précisons que les quartiers et morceaux de viande n'avaient pas d'appellation avant le XVIIe siècle. N'oublions pas le porc, viande très largement consommée que l'on trouve sur toutes les tables. On la retrouve surtout dans la nourriture paysanne sous toutes ses formes, salée, fumée, séchée, en saucisse, en pâté. Elle se consomme fraîche en hiver, salée en été, en charcuterie diverse, toute l'année. Autour de 1600, les aliments carnés préférés des Genevois dans leur ensemble allaient au mouton, lapin, lièvre, volaille, le jambon, les saucissons, bref, entre deux disettes, on se tapait la cloche. D'autres éléments de la table riches en cholestérol en font partie. Mais c'est une autre histoire. Saviez-vous à quoi ressemblait le quotidien de Saint-Gervais dans la première moitié du XXe siècle? Elle était grouillante de vie, ses rues pleines d'échetiers, de cabinetiers et d'un nombre respectable de débits de boissons et d'auberges. Les premiers magasins voyaient le jour et l'ère de la motorisation des transports se développait. J'ai retrouvé pour vous la chronique d'un gamin du quartier et de sa vie quotidienne d'alors. À l'époque, les usines alimentaires industrielles n'existaient pas et la plupart des produits étaient proposés en vrac, au marché et dans les premières épiceries. Le lait, par exemple, était livré directement aux consommateurs eux-mêmes de porte à porte. Le lait était transporté par des charrettes à chevaux, dans des boys, des bouteilles ou des bidons, d'étage en étage, de porte à porte. Il s'échinait sous le poids et les ménagères achetaient un demi-litre de lait, un litre, deux litres, suivant l'usage qu'elles en faisaient. Le laitier parcourait les rues et annonçait son arrivée à coups de sifflet. Quelques commères pouvaient venir se ravitailler sur place, munis de leurs bidons ou autres bouteilles. Les écoliers recevaient à la récréation leurs petites bouteilles de lait. De temps à autre arrivait un peu d'air frais de la campagne. Saint-Gervais se mettait à l'heure bucolique. Parfois, c'était des troupeaux de chèvres qui traversaient le cendrier, les étuves, pour débarquer en Lille. Parfois aussi des moutons ou des vaches. Les bergers profitaient de ce passage pour vendre sans intermédiaire les produits qu'ils emmenaient avec eux et profitaient d'acquérir ce qui leur manquait. Les mômes, à la sortie de l'école, se débrouillaient pour exécuter de petites tâches, des livraisons surtout, de beurre, de fromage ou d'autres outils pour un artisan. Pour leur aide, ils recevaient en retour la pièce qui leur payait leur sucette, ou dans les boulangeries, le sachet de brise. Pour ceux qui s'en souviennent, les brises étaient, comme son nom l'indique, des biscuits cassés. Ou d'autres pâtisseries retirées de la vente, car abîmées, les gosses raffolaient de ce petit plaisir à deux sous. Tranche de vie d'un quartier bouillonnant qui en annonce d'autres. Mais c'est une autre histoire. Saviez-vous qu'au XVIIIe siècle, les échanges commerciaux n'étaient pas centrés que sur le transport routier ? Mais Genève, idéalement située au bout du lac, avait aussi d'autres voies d'approvisionnement. Et ce fut le lac, le Rhône en aval, qui sera largement utilisé comme alternative. Le réseau fluvial de l'époque comptait de nombreux canaux navigables qui, du lac de Bienne, de Neuchâtel, faisant parvenir les marchandises dans les ports du Léman. Yverdon, par exemple, reliait par voie navigable le port de Morges. Les ports les plus importants étaient Villeneuve, Vevey, Saint-Gingolphe, Meyry, Thonon, Lausanne, Morges, Rolles, Versoix et d'autres encore. Ce qui fit qu'une intense vie commerciale liée au lac se développa. Les chantiers navals existants s'agrandirent pour faire face à la demande de transports de plus en plus importants. Petits et grands bateaux sillonnent le lac, chargés de marchandises ou de passagers. Les catégories de bateaux allaient de la plus simple barque de pêcheurs, en passant par d'autres comme la Neptune, par exemple, aux galères militaires. Certaines de ces barques étaient gréées d'une voile latine à un ou deux mâts. Genève est le point final de toutes ces marchandises. La ville en expansion avait besoin de tout. De la pierre, du sable, de la nourriture, des armes, des canons, bref. Tout ce qui flottait ou presque participait au développement de Genève. En aval, il faut citer aussi les ports d'Avuilly et Chancy qui reçoivent les barges venant de Lyon. Apparemment, tous les chemins mènent aussi à la Rome protestante. Mais c'est une autre histoire.
Bientôt, d'autres histoires.